Saudi Arabia's crown prince says Palestinians
and ce soir nous recevons Guillaume Lascondarias. Bonsoir.
Géo Express.
اهلا وسهلا مرحبا بكم في جيو اكسبريس في عدد خاص اللي من خلاله حاولنا نواكبوا ندوه علميه حول القضيه الفلسطينيه والقانون الدولي. الندوه ذي نظمتها الهيئه الوطنيه للمحامين بتونس مع نقابه المحامين كذلك بفلسطين واللي حضروا فيها برشا رجال قانون وحتى مختصين في القانون الدولي من عده دول من فرنسا تركيا عمان والاردن والجزائر وغيرها من الدول. الندوه ذي بدات البارح وتتواصل حتى غدوة واللي من خلالها باش نشوفوا برشا محاور حاولنا نحن نحضروا ونواكبوا وسجلنا بعض الحوارات اللي باش تكتشفوها تلت البرنامج. بالتزامن نعرفوا أنه على مدى أسبوع زادت تتواصل جلسات الاستماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وهذا في إطار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمجلس الأمن. شفنا مرافعات أو هي ليست مرافعات بقدر ما هي إبداء الملاحظات والتكييف القانوني لما يحدث في الأراضي الفلسطينية. سمعنا البارح الأستاذ سليم اللغماني اللي كان حاضر ومثل تونس وباش نسمعوا جزء من ما ذكره وكذلك باش نتوقفوا كذلك عند بعض من تأثر وقت اللي هو يعطي في ملاحظاته وهنا نحكيه على ممثل الكويت بمحكمة العدل الدولية.
ليس من الواضح للجميع أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية وأنها تستعمر هذه الأراضي وأنها ضمت القدس وأنها في الحرب العدوانية التي تشن على غزة تتجاهل وتدعي أنها تجاهلت مبدأ أي التمييز والتناسب وأنها تعمدت استهداف الأماكن والأشخاص المحميين. ليس واضحا من سياسات وممارسات إسرائيل أنها تفعل ذلك بوجود نظام محدد سلفا وخطة تحاك هدفها النهائي تدمير الفلسطينيين كشعب وتحويلهم إلى غبار أفراد وأن إسرائيل لم تتوقف أبدا عن العمل.
Why does the victim? Why does the victim continue to be portrayed as a killer according to Israeli's norms? Why does Israel always escape punishment? I have all these souls been lost amid absence of word.
في انتظار ما ستقول إليه الجلسات الاستماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي مع العلم أنه في سنة 2004 كانت عنا نفس تقريبا نفس الموضوع واصدر قرار أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأنه الجدار اللي كان بناه الكيان الإسرائيلي والفاصل مع الأراضي الفلسطينية غير قانوني لكن كما تعرفوا ما وقعش تطبيقه. نحن في الندوة ذي حاولنا نكونوا حاضرين باش نسجلوا الحوار والرأي وخاصة والتحليل القانوني للمحامي الفرنسي جيل ديفير اللي كان حاضر قبل معنا في جيو إكسبريس وقت اللي قام بإيداع شكاية لدى المحكمة الجنائية الدولية. حكينا معاه باش نعرفوا ما قال هذه التتابعات الجزائية وخاصة الجدل القانوني اللي قاعد يصير اليوم حول مدى إمكانية تطبيق القانون الدولي على إسرائيل وكيف يمكن كذلك مواصلة تتبع إسرائيل من أجل الجرائم. وباش تسمعوا بعده حوار مع السيد إدريس عبد الرحمن نقيب المحامين ببجاية حول الطلبات أو المشروع القرار اللي في مناسبتين تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن على أمل الحصول على قرار وقف إطلاق النار باش نشوفوا التوجه اللي مازال مصر عليه الجزائر ومدى فاعليته.
Géo Express.
Je suis contente d'accueillir notre invité, Maître Gilles Devers. Bonjour.
Bonjour, madame.
Donc, vous êtes parmi nous en Tunisie pour présenter votre conférence qui s'intéresse aux procédures devant la Cour pénale internationale à l'occasion de cette conférence organisée par l'Ordre national des avocats. Donc vous étiez notre invité il y a deux mois et vous avez parlé de l'enquête. On va revenir sur la suite de cette enquête. Mais le hasard du calendrier fait que la Cour internationale de justice a entamé les auditions sur les pratiques d'Israël en Palestine. Il y a plus que 50 pays qui feront des plaidoiries jusqu'au 26 février. Les auditions ont lieu à la demande de l'Assemblée générale des Nations unies pour fournir des avis consultatifs sur les répercussions juridiques découlant des politiques et des pratiques israéliennes dans les territoires occupés. Alors la question, la Cour internationale de justice rendra-t-elle un jugement qui déclare clairement la condamnation d'Israël pour occupation illégale ?
Eh bien écoutez, c'est tout l'enjeu, effectivement. Il faut bien rappeler qu'en droit, une occupation militaire, elle est prévue par les textes et c'est même un outil pour la paix. C'est-à-dire que vous avez un pays qui en agresse un autre ou qui le menace fortement, et donc le pays qui se défend doit provisoirement passer la frontière et s'installer chez le voisin. Bon, mais c'est le temps de rétablir la paix, c'est pour qu'il y ait un nouveau pouvoir qui se mette en place, qu'on signe un accord, et vite on se retire. Alors je peux donner beaucoup d'exemples, mais on va prendre le plus simple pour moi, c'est celui de la France, qui était puissance militaire occupante en Allemagne de 1945 à 1948. Mmh. Et ensuite il y a eu un nouvel État, et la France s'est retirée. Quand elle s'est retirée, elle n'a pas laissé de colonies, elle n'a pas emporté les usines et elle est repartie, c'est tout. Et donc l'occupation militaire, elle est tout à fait légitime. Mais passé un certain stade, elle devient un moyen de conquérir du territoire par la colonisation, par le fait d'imposer ses lois, d'imposer sa présence militaire, d'imposer ses services publics et finalement d'agrandir son territoire. Et ça, c'est complètement interdit. C'est-à-dire qu'on détourne l'occupation militaire pour en faire un moyen d'annexion d'un territoire par la force armée. C'est ce qui est en jeu sur Israël. Donc à ce jour, est-ce que l'occupation israélienne des territoires palestiniens, elle est illégale? Je crois qu'il y aura une unanimité pour le dire chez les juges, on verra bien. Ce qui sera déjà intéressant, c'est aussi de voir comment la Cour va fixer les critères, parce que quand est-ce de illégal, ça le devient illégal. Alors oui, à ce jour, on pense que c'est illégal, mais quand est-ce que ça l'était devenu? Pour moi, ça l'est devenu dès qu'il y a eu un plan de colonisation, c'est-à-dire très rapidement, dès 68 et 69. Alors ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est que cette occupation militaire, c'est un fait international illicite dans la construction du droit international, c'est là la reconnaissance, et les États ont l'obligation de ne pas reconnaître le fait international illicite. C'est un devoir des États. Donc, qu'est-ce que doivent faire les États face à une occupation militaire qui est illégale? Et ici, on voit les États qui viennent plaider. Donc, il y a des États, quelques-uns, qui le font avec ardeur et simplicité. Pourquoi? Parce qu'ils ont une politique exemplaire sur le plan étranger, mais ça fait très peu. Et il y en a beaucoup qui ont discours violation des droits, mais bon, malgré tout, bon, et le malgré tout.
Un peu nuancé.
Voilà,
oui.
Malgré tout, ça passe pas. Voilà. Oui. Donc c'est ici qu'on attend la décision de la Cour. Ça sera un avis, hein, c'est pas une décision contentieuse, mais sera incontestablement beaucoup d'importance. Et je pense que ce qui arrive actuellement, c'est-à-dire cette attaque génocidaire sur la Palestine, va renforcer la procédure. Pourquoi ? Parce que dans le génocide, vous avez une intention immédiate qui est celle des dirigeants qui sont plus que d'extrême droite, qui sont au gouvernement d'Israël actuellement et qui sont d'une férocité sans fin et sans gêne. Enfin, c'est le Palestinien n'existe plus, c'est moins qu'un animal. Mais au-delà de ça, si on creuse, on se rend compte quoi ? C'est que finalement, ça a une seule source, et cette source, c'est le refus du droit à l'autodétermination. Donc quand vous refusez le droit à l'autodétermination d'un peuple, vous dites « je suis plus fort que lui ». Or, toute la paix dans le monde, elle repose sur l'égalité des peuples. Voilà. Donc vous avez une source immédiate du génocide qui est la poignée de dirigeants extrémistes d'Israël, mais vous avez une source profonde qui est le refus du droit à l'autodétermination. Et c'est ici que le débat fondamental, quand est-ce que cette occupation est devenue illicite, sera très intéressant.
Très bien. En 2004, dans un avis aussi consultatif, la Cour internationale de justice a statué que la constitution, que la construction du mur de séparation en Cisjordanie occupée était illégale. Et la Cour a exigé sa démolition par Israël avec une compensation pour les personnes lésées. Bien sûr, Tel Aviv n'a pas à ce jour appliqué la décision de la Cour internationale de justice. Donc la question, à quoi sert de faire appel à la Cour internationale de justice tant que ces jugements et ces avis ne seront pas appliqués par Israël ?
Alors je ferai une première remarque, c'est que les difficultés sont extrêmes pour le peuple palestinien. S'il y avait une solution magique, on l'aurait trouvée. Mais c'est très compliqué et notamment il faut faire le constat d'une grande solitude du peuple. Et le peuple palestinien doit d'abord compter sur lui-même. Il a quelques vrais amis, notamment dans le monde arabe, mais vous savez qu'on les compte sur le doigt d'une main. Oui. Parce que les autres, ce sont des discours, ils ne passent absolument rien. Et notamment tous les États qui ont signé les accords d'Abraham, il n'y en a même pas un qui a songé à le suspendre alors qu'un génocide est en cours. Donc les peuples...
Et pourtant, c'était une carte.
Absolument. Les peuples sont en grande solidarité avec le peuple palestinien, notamment dans le monde arabe, c'est une unanimité. Mais au niveau des dirigeants, c'est quand même différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une magie juridique quand le rapport de force politique est quand même très défavorable. Donc il faut partir à partir des Palestiniens. C'est la première observation. La deuxième observation, c'est que ça pourrait peut-être aller plus vite pour la justice, mais enfin avec les armes du droit telles qu'elles existent. Bon. Mais en revanche, ça va quand même bien mieux que pour la politique. Parce que regardez ce qui se passe au Conseil de sécurité. L'Algérie prépare une résolution extrêmement motivée, travaillée depuis une semaine avec un effort diplomatique considérable pour dire qu'en bout de course, qu'est-ce qu'il faut ? Un drame absolu, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat humanitaire. Alors, et c'est vraiment... veto des États-Unis et ça bloque tout.
Pour la troisième fois.
Voilà, et ça bloque tout. Alors que le même jour, le lendemain, ça c'était le mardi, le mercredi, les États-Unis, ils sont devant la Cour internationale de justice. Mm-hmm. Ils ont droit à une demi-heure comme les autres. Il n'y a pas de droit de veto et le débat se poursuit. Et à la CPI, nous ne rencontrons que des obstacles. Et on voit bien que s'il y a ces obstacles, c'est parce que ça gêne. Mais ça progresse quand même. C'est-à-dire que je vois que sur le jeu politique, c'est bloqué. Oui. Et que finalement, même si ce n'est pas très spectaculaire et même si ça pourrait aller mieux sur le plan juridique, nous progressons et je pense que dans les temps qui viennent, les gens auront la preuve par neuf, c'est-à-dire qu'actuellement, on travaille sur des mandats d'arrêt et ça me paraît une hypothèse très réaliste. Ensuite, le troisième point, pour revenir à 2004, c'était un avis qui a été rendu par la CIJ. La CIJ a dit... Voilà l'état du droit, voilà ce qui reste à faire. Alors Israël n'a rien fait, d'accord, mais avec toute l'amitié que j'ai pour eux, les dirigeants palestiniens n'ont rien fait non plus.
Ça c'est vrai, oui.
C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait
la possibilité d'imposer...
Mais bien entendu, il y avait un guide qui était à faire, il y avait des appuis diplomatiques à prendre, vu que tous les États étaient tenus par ça. Donc...
Mais à l'époque, je pense qu'ils ont opté pour la paix et pour la possibilité de réussir
la médiation. Oui, c'était ce qui était mis en avant avec ces soi-disant accords d'Oslo.
Exactement.
Mais les accords d'Oslo, de mon point de vue, moi je ne suis pas politique, je suis juridique, mais de mon point de vue, les accords d'Oslo sont une aberration juridique, vu que vous renoncez à votre statut d'État pour devenir une espèce de chose qui s'appelle l'autorité palestinienne. Quand vous êtes l'autorité palestinienne, vous perdez le contact avec tout le droit international et vous ne dépendez plus que d'un traité bilatéral, comme si c'est Israël qui avait tous les droits. C'est-à-dire que, avant de rentrer dans la discussion, parce qu'on peut toujours discuter avec tout le monde, et tous les accords de paix, regardez la libération de l'Algérie, c'est bien la France qui a passé un accord avec l'Algérie, donc ce sont toujours les combattants qui font la paix.
Mais le problème pour l'accord d'Oslo n'a pas été choisi par les Palestiniens. Il a été imposé en quelque sorte.
Il a été imposé par qui ? Par les puissances, c'est-à-dire en premier lieu les États-Unis qui
donc
voyaient quoi ?
Donc ils ont décidé pour eux.
Et parce qu'ils étaient effrayés, parce qu'en 1948, il y a eu un consensus international pour rayer toute souveraineté palestinienne. Il y avait les Palestiniens, lesquels qui restaient Israël, ils étaient devenus Israéliens. Les autres, c'était Jordaniens. Il y avait des réfugiés. Il n'y avait plus de Palestiniens. Ils croyaient avoir réglé le problème. Et par la lutte armée. Les Palestiniens ont reconstruit la reconnaissance du peuple. Ils sont arrivés jusqu'à l'ONU, qui a d'abord parlé du peuple palestinien, puis d'un peuple souverain, puis d'un mouvement de libération nationale. Et on voyait le mouvement, qui, surtout qu'à l'époque, il y avait quand même le bloc soviétique qui soutenait massivement la cause palestinienne. Donc on voyait arriver la reconnaissance d'État ou quelque chose. Et donc c'était la panique à bord. Donc on a débranché en disant on va faire l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que la création des accords d'Oslo, c'est une manière de bloquer la reconnaissance de l'État de Palestine. Et ce que j'observe, moi, avec beaucoup de satisfaction et d'intérêt, c'est que dans ce qui est actuellement en cours, que ce soit à la Cour internationale de justice, à la Cour pénale internationale, c'est le grand retour de l'État de Palestine dans le droit international, où tout devient plus simple, parce que vous retrouvez les droits. Et pour ceux qui ne comprennent pas trop le droit international, c'est la même chose que dans la vie de tous les jours. Vous avez quelque chose, on va inventer un être humain parce qu'il vit, on ne sait pas trop ce que c'est. Non, c'est un être humain, il est dans le code civil, ça y est, il a repris son existence. Donc à partir de maintenant, le peuple palestinien est souverain dans l'ordre international, il est à la CIJ, il est à la CPI, demain il sera au comité des droits de l'homme, il se saisit des traités internationaux et on voit Israël désespérément qui dit « Ah mais il faut revenir aux accords d'Oslo, mais je veux revenir aux accords d'Oslo pour retomber comme autorité palestinienne » et puis on veut tout ça.
Oui. On va rester toujours avec le sujet de la CIJ. La CIJ a rejeté la requête additionnelle de l'Afrique du Sud contre Israël, citant que l'État hébreu devrait respecter les mesures déjà ordonnées. Donc, comment vous qualifiez tout d'abord ce jugement rendu par la Cour ? Est-ce qu'il était suffisamment clair ? Ou est-ce qu'il faut que ce jugement, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas ordonné le cessez-le-feu, donc il a contribué à ce que Israël continue à commettre ses crimes ?
Pour ce qui est de ce jugement, vu que là c'est bien un jugement, moi je dois d'abord souligner le sérieux avec lequel la Cour a travaillé. Vu que chacun a beaucoup de références dans nos systèmes juridiques nationaux, que ce soit en Tunisie, en Algérie, en France, vous avez une requête qui est déposée le 29 décembre, une audience qui est fixée le 11 janvier, et le 26 janvier, on vous rend la décision de justice sur 30 pages en anglais et en français. Mmh. Bon, je veux bien croire que toutes les juridictions font ça, ça serait magnifique.
Oui.
C'est un cas
c'est
rare.
Vrai, oui.
C'est-à-dire que vraiment, la Cour
de
a pris l'affaire...
De point de vue rapidité, oui.
La Cour a pris l'affaire au sérieux, au niveau de la motivation. Ensuite, deuxième chose, la Cour, elle est saisie ici dans le cadre des mesures d'urgence, c'est-à-dire que les juges appliquent les procédures, et nous-mêmes, comme avocats, nous sommes tenus par les procédures. Or, elle n'a pas le droit, elle n'a pas la capacité de dire il y a génocide dans le cadre d'une procédure urgente. Ça n'existe pas. Elle ne pouvait pas lui demander cela. Ça aurait été en dehors des textes.
Voilà.
Elle peut simplement dire il y a des éléments assez graves et concordants pour que j'ordonne des mesures provisoires. Et elle l'a fait en disant génocide plausible. Ce qui a fait bondir Israël et les États-Unis.
Mais c'était possible avec l'Ukraine. Ils ont fait ça.
Avec l'Ukraine, c'était différent. Pourquoi ? Parce que c'était un litige entre l'Ukraine et la Russie. Donc la Cour, elle avait les deux parties belligérantes. Or, il n'y a pas de conflit entre l'Afrique du Sud et Israël. Donc quand je suis juge, je peux rendre une décision, elle s'applique aux deux parties. Donc il y a deux parties en combat, je peux leur dire, je vous ordonne le cessez-le-feu. Mais elle ne pouvait pas, moi je suis le premier à le dire, elle ne pouvait pas ordonner le cessez-le-feu à Israël, alors que l'autre partie au litige n'est pas concernée par la procédure, vu que la Cour prend soin dans son ordonnance de dire que ce n'est pas l'État de Palestine, que c'est des groupes armés, que c'est le Hamas et des groupes armés. Et la Cour internationale de justice, elle a compétence que pour les États. Alors pour l'État de Palestine, on ne sait même pas, c'est pas encore tranché parce que la Palestine est un État non membre de l'ONU, donc on verra bien la réponse qui sera donnée un jour, mais c'est sûr qu'elle ne peut pas se prononcer sur des groupes armés qui sont informels. Donc elle ne pouvait, elle n'avait pas l'autre partie au litige, et l'autre partie au litige est un groupe armé sur lequel elle n'a pas d'autorité. Donc on verra bien ce que sera la suite, mais je ne vois pas la Cour, s'il y a une nouvelle audience de mesures urgentes, ordonner un cessez-le-feu. Alors le Hamas avait fait quelques jours auparavant de cette décision, voyant venir le problème, une déclaration en disant « s'il y a une décision, je la respecterai », je ne pense pas que ça suffise à la Cour.
Alors dernièrement, des experts mandatés par l'ONU exigent une enquête après des accusations de viol, des agressions sexuelles et des détentions arbitraires qu'elles en subissent des Palestiniennes. Est-ce que ces accusations pouvant être incluses dans l'affaire ou bien l'enquête déposée à la Cour pénale internationale que vous avez
depuis donc cette plainte, je la connais bien pour l'avoir rédigée et fait enregistrer le 9 novembre au bureau des victimes et au bureau du procureur. Il y avait déjà la question des atteintes à la dignité, vu que nous avions déjà des éléments là-dessus. Et depuis, on a adressé une base documentaire à la Cour, vu que au bureau du procureur et au bureau des victimes, vu que il y a maintenant une équipe qui travaille à la CPI avec un enquêteur chevronné, toute une équipe. Et notre attitude a été de dire, maintenant on voit que la Cour travaille sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut faire pour pour aider. Ils ont dit, écoutez, nos moyens ne sont pas immenses. Donc on offre le relais, nous, de faire un travail d'enquête à partir des administrations de l'ONU qui sont sur place et qui font un travail remarquable. Et donc on a un chapitre sur il y a 15 chapitres pour surveiller tout ce qui se passe là-bas, comme un scanner, si vous voulez. Il y en a un sur les atteintes à la dignité, mais très proche, il y a également un chapitre sur les attaques des cimetières et sur les prisonniers. Voilà. Mmh. Donc ces questions sont entièrement dans le débat et ce qu'on voit quand même, c'est une forme de généralisation, c'est-à-dire que toute personne qui est arrêtée est mise à nu, à genoux, homme ou femme, avec des gestes impudiques qui sont qualifiables de viol. C'est absolument consternant.
Dernière question. En Tunisie, notre professeur universitaire et maître Adnan Limem a déposé une plainte auprès du tribunal de première instance de Tunis, plainte pour participation au génocide contre le procureur de la Cour pénale internationale, souhaitant que c'est-à-dire cette action peut être multipliée par les autres ou bien suivie par les autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je n'ai pas participé à cette, à cette procédure et je me trouve d'être dans une position où je rencontre le bureau du procureur et où, avec 15 ans d'expérience, vu que je travaille sur ces dossiers dès la première plainte, c'est en janvier 2009, je vois que l'équipe actuelle du bureau du procureur, parce que vous avez la personne du procureur, mais il y a une équipe autour de lui, n'a jamais aussi bien travaillé sur un dossier de Palestine. Il faut dire que le terrain a été déblayé par l'expérience. Vu que maintenant nous avons la ratification par l'État de Palestine qui est certaine, la Palestine a transféré, ça c'était janvier 2015, la Palestine a transféré sa compétence en mai 2018. La Cour s'est prononcée en 2011 pour dire qu'elle avait compétence, en 2021 pardon, pour dire qu'elle avait compétence sur les trois territoires de l'État de Palestine. Donc le cadre juridique, il est posé. Bon, et les autres procureurs disaient, ben on va attendre de la fin des opérations. Ensuite, un autre organe, le Conseil des droits de l'homme, va désigner une mission et puis on verra quand ça arrive. Le Conseil des droits de l'homme déposait son rapport, assez intéressant, mais 2 ans plus tard et ça partait dans les oubliettes. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a actuellement une équipe qui travaille au bureau du procureur. Donc ça, c'est une chose que l'on n'a pas eue jusqu'à maintenant. On écrit, elle nous reçoit, j'en suis à la troisième réunion de travail et ils me demandent des éléments, comment faire pour avancer. Donc on leur donne des éléments, on coopère, on va remettre aujourd'hui un document de 300 pages qui sera remis à la Cour demain sur tous les éléments qui prouvent jour après jour qu'Israël n'a strictement rien fait pendant cette période d'un mois. Ça vient compléter une base documentaire de 1500 pages que l'on avait déjà déposée. Donc on est sur ce travail-là. Après qu'il y ait des initiatives prises en Tunisie ou ailleurs pour dire qu'il pourrait être fait davantage et que c'est pas ça, c'est la liberté des avocats et on est dans une confrontation qui est difficile. C'est vrai que je dois dire qu'il y a eu, mais ça tout le monde l'a vu, des déclarations du procureur qui avaient été concernantes, hein. Je dis ça avec le respect que je lui dois en tant qu'avocat inscrit au barreau de la CPI, c'était incompréhensible ce qu'il a pu déclarer. Bon, il y a les déclarations, il y a les faits. Moi, je vois que la Cour, elle travaille. Et je vais même pousser mon raisonnement en disant qu'au départ, le procureur ne voulait pas s'occuper du dossier de Palestine. C'est une chose qui est acquise. Et notamment, je ne parle pas de procès d'intention, mais il y a une chose qui parle, c'est le budget. Et le budget, c'était, il y avait rien du tout. Et 30 000 euros, donc c'était rien. Maintenant, les événements, le travail que l'on fait, la nécessité d'être au rendez-vous de l'histoire fait que ça change. Eh bien, ce n'est pas un pari, c'est une construction qui est en cours.
Maître Gilles Dever, merci beaucoup.
Merci à vous.
جيو إكسبرس.
ضيفنا اليوم في جيو إكسبرس بمناسبة حضوره في اليوم المخصص للقضية الفلسطينية بتنظيم الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ إدريس عبد الرحمن نقيب المحامين ببجاية وأمين العام للاتحاد المحامين الجزائريين. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
صباح الخير. السلام عليكم.
شكرا لك. نعرف الجزائر حاضرة في القضية الفلسطينية من خلال الدعوة اللي قدمتها في موعدين أمام مجلس الأمن في أمل الحصول على قرار بوقف إطلاق النار.
لكن في كل مرة نفاجأ بطبيعة الحال باستعمال الفيتو الأمريكي الذي يخلينا نبقى في نفس الوضع اليوم في ما يحدث في غزة من مأساة يومية ومن خاصة مجازر يرتكبها الكيان الإسرائيلي. اليوم ما الهدف من القيام بطلبات بالتوجه إلى مجلس الأمن خاصة وأنه نعلم أن هناك دائما استعمال للفيتو؟
أولا صباح الخير، شكركم هذه الدعوة. نقول فقط قبل ما نجاوب على السؤال لازم نوليو إلى تاريخ الحرب العالمية الثانية، واش صرا من يعني الاغتيالات والقتلى يعني بالملايين في 1945. قلنا أجامي يشرس الشي هذا في المستقبل، هذا قلنا بلو جامي سكي سي باسي في لا دوزيام غير مونديال. رحنا ابري الحرب العالمية الثانية نشوف اليوم ان جميع مؤسسات الدولية راحت لها المصداقية نتاعها. كمثال مجلس الامن الكونسي دو سيكوريتي وين لي زاليي لي فانكور دو لا دوزيام غير مونديال يستعملوا نفس الوسائل اليوم باش ما نوصلوش الى الحقيقه، باش ما نوقفوش النار، باش ما نوقفوش القتال، القتل، لي زاساسينا دونفون دو فيو اي دو فام، مي سي با بوسيبل. وتقولوا اليوم ان الناس مازال تقول على مستوى العالمي ان الولايات المتحده هي يعني نظام ديمقراطي ونظام انساني. انا نقول لا، كمحامي عيب نقولوا شي هذا. أشاك فوا نروحوا بور لو سيسي الفو، وقف الحرب ووقف القتل، الولايات المتحدة تقول لا لا. اليوم أنا نقول أن جميع مؤسسات الدولية منها المجلس الأمن تاع منظمات الأمم المتحدة راحت المصداقية نتاعو على المستوى الدولي ليمنوا به غير أعضاء مجلس الأمن فقط، ولكن جميع الدول في مشكلة في القضية الفلسطينية. لا كريديبيليتي دو كونسي دو سيكوريتي نيكزيست بلو سور لا سين انترناسيونال،
هذا مؤكد. وشفنا احنا يعني في كل مرة دوبل ديسكور، معناها نشوفوا بلينكن ولا حتى بايدن يقول نحن نسعى لهدنة إنسانية ونحاول أنه نشوفوا حل كيف يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات، لكن وقت اللي يتعدى القرار على مستوى مجلس الأمن بطبيعة الحال تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو لمنع أي قرار في هذا الصدد. الإشكالية ربما في عدم التزام إسرائيل بأي قرارات، حتى القرار الصادر على المحكمة العدل الدولية شفنا ما التزمت حتى بند، ومر تقريبا الشهر واللي هي مطالبة باحترامه حتى فيما بعد باش تقدم تقرير ما التزمتش به. اليوم القانون الدولي غائب تماما، المحكمة غير قادرة على إلزام إسرائيل بتطبيق القرارات، مجلس الأمن عاجز تماما على إصدار قرار بإطلاق النار، إيقاف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب. الحل أين؟
لابد أن الدول العربية والدول الإسلامية دير ضغط على الدول هذه لتهيمن على مجلس الأمن.
كيف يكون الضغط؟ كيف الدول المتبعة العربية؟
لا، في هناك ديزانتيغي بيناتهم، يا ديزانتيغي أنتخ ليزيطا، وأن الولايات المتحدة في بعض الميادين تستلزم أن تفوت على الدول العربية باش ما ندخلوش يعني في تفاصيل. اليوم لازم دول إسلامية دول عربية دير يعني جورني انترناسيونال pour soutien et cesser le feu en Palestine. هنا on va commencer les négociations sérieuses avec les alliés, avec les membres du Conseil de sécurité. Parce que اليوم شكون بقى فقط il bloque la situation, c'est les États-Unis. La France est دخلت الاخر, ils sont pour un cesser le feu, يعني مازالنا les États-Unis. Il faut négocier sérieusement avec ce pays qui ne cesse de détruire la Palestine depuis la création de l'État de la Palestine. Qui est derrière la destruction de la Palestine? Vous le savez bien.
شكرا لك دكتور أستاذ إدريس عبد الرحمن، نقيب المحامين ببجاية وأمين العام للاتحاد المحامين الجزائريين. شكرا لك.
بارك الله فيك.
Géo Express. جيو إكسبرس.
رجعنا معكم باش نكملوا بقيت فقراتنا في جيو إكسبرس. كما قلت اليوم عدد خاص حاولنا من خلاله نجمع شهادات وحوارات الضيوف اللي حاضرين في الندوة العلمية حول القضية الفلسطينية والقانون الدولي. الجزء الثاني هذا باش نسمع فيه الأستاذ حاتم الشلي مستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو هيئة الدفاع في القضية الفلسطينية عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. أكيد تابعتوا الأخبار أنه كانت تنقلت مجموعة اللي تمثل الهيئة الوطنية المحامين بتونس إلى لاهاي مؤخرا وقاموا بإيداع شكاية من أجل تتبع إسرائيل ضد الجرائم اللي قامت بها. نشوفوا كيفاش يمكن كذلك مواصلة يعني ربط مجموعة هذه الشكايات ومدى سرعة البت من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ونختم لقائنا مع الأستاذ عبد الباري عطوي رئيس تحرير جريدة رأي اليوم والصحفي والمحلل السياسي اللي هو كان من بين الحضور. خاصة حاولوا نفهموا معاه إمكانية توسع هذه الحرب إقليميا والأطراف الفاعلة في الحرب وفي الحل لإنهاء هذه الحرب.
جيو إكسبرس.
ضيفنا اليوم كان سبق وحضر معنا بالتليفون وخذنا رأيه فيما يتعلق بعدة قضايا من اختصاص القانون الدولي، وخاصة وقتها كان نتذكره في الاضطرابات اللي صارت في فرنسا، وكذلك خذنا رأيه فيما يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. اليوم حاضر معنا الأستاذ حاتم الشلي مستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو هيئة الدفاع في القضية الفلسطينية عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. مرحبا بيك.
وبيك عايشك.
شكرا لك أستاذ أنك حاضر معنا اليوم في جيو إكسبرس باش نحاولوا نفهموا معاك اليوم الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مشيت لمحكمة لاهاي وحاولت هي بدها تساهم في مجموعة القضايا اللي موجودة واللي تم رفعها والشكيات الشكايات اللي قام العديد من الجهات بتقديمها قدام المحكمة الجنائية الدولية. أنت معناها تمثل الفريق اللي معناها يهتم بالضحايا الفلسطينيين، أعطينا فكرة على الساعة فيما يتعلق بالتتبع اللي قامت به الهيئة.
طبعا هي المحكمة الجنائية الدولية لا تلاحق دول ولا تلاحق أحزاب ولا تلاحق حكومات، وإنما تلاحق أشخاص وتلاحق مجرمي حرب. وبالتالي احنا تقدمنا بالشكاية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 20 فيفري الفرد. الشكاية هذه تتضمن بعض الوقائع، تتضمن بعض التصريحات وتتضمن بعض المؤيدات من مجتمع مدني، من جمعيات، من مسؤولين سياسيين. وطبعا كانت هذه الشكاية معززة ببعض المعطيات ووسائل الإثبات. في الشكاية هذه ضمننا شنو ما الجرائم اللي تم معناتها ملاحظتهم، اللي هما جرائم كي غوليف دو لا كومبيتونس دو لا كور، سو سون دي كريم دو جينوسيد، كريم دو غير ايفونتويلمون. وطلبنا من النائب العام لو بروكورور دو لا سي بي دونكيتي سور لي في كي سون بيربيتري دوبوي لو موا دو اكتوبر 2023 جوسكا سو جور، donc d'ouvrir une enquête sur ces faits récents et de prendre les mesures nécessaires et de saisir la chambre préliminaire en vertu de l'article 58 pour, par requête pour décerner les mandats d'arrêt et les citations à comparaître à l'encontre des personnalités politiques israéliennes. Donc on est à ce stade de procédure. Éventuellement, le procureur de la CPI, c'est pas uniquement notre plainte qui a été déposée. Il y avait beaucoup de plaintes déposées, que ce soit par d'autres États, que ce soit par des acteurs, par des associations. Mais la particularité dans notre plainte, c'est que nous avons, d'une façon synchronisée et d'une façon parallèle, concomitamment, saisi le procureur en vertu de l'article 89-1 du règlement du procédure et de preuve, notamment l'article 68-3 du statut de Rome, pour demander au procureur de prendre des mesures nécessaires pour les victimes qui sont actuellement déplacés. Il y a des victimes qui sont déplacées.
Les mesures de quel genre ?
Les mesures, c'est pour protéger ces victimes, c'est pour cesser immédiatement les bombardements sur les bâtiments civils, parce que ces civils qui sont déplacés aujourd'hui de part et d'autre, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, ce sont des victimes qui souffrent, qui sont blessées. Il y a des victimes qui ont leurs parents qui sont morts dans les bombardements d'une façon permanente. Et donc, par le biais de cette communication que nous avons adressée devant le bureau du procureur, nous demandons, en vertu de ces deux articles, de prendre les mesures nécessaires en vue de protéger les victimes, en vue de préserver les éléments de preuve pour un procès ultérieur, en vue de demander de cesser les bombardements sur les victimes qui sont actuellement sur le territoire palestinien. Et donc, ces mesures doivent être prises d'office par le procureur de la CPI. Et dans la mesure où le procureur ne donne pas droit à ses victimes pour rendre des mesures sur leurs préoccupations, à ce moment-là, nous sommes en parfaite mesure de saisir la chambre préliminaire en vertu de l'article 54C-1 pour demander et obliger le procureur à prendre les mesures coercitives. Et voilà. Et nous avons une jurisprudence qui est constante, qui permet aux victimes de participer à l'instant, contrairement à ce que pensent les juristes, eh ben, les victimes ils peuvent aujourd'hui participer pour pouvoir préserver les éléments de preuve pour un procès ultérieur.
Contrairement à ce qu'ils pensent les juristes, enfin, ma impression générale, c'est que la Cour pénale internationale, surtout le mot d'ail l'âme, il n'y a pas de rarba fi tatabba ou la fi riem bel tahkir ou l'isra fi tatabba al jaray, il n'y a pas de chkaya ou la fin, barche chkaya.
Alors, la partie.
Donc, est-ce que l'youm, ahna, manèche fahmin, nous rendons à sakras beha, il y a long. Par rapport الاحداث اللي قاعده تصير والعدد الكبير نتاع الضحايا والشهداء اللي قاعد يزيد والا اليوم فما القضاء نتاع المحكمه الجنائيه الدوليه تحت ضغوط الضغط الامريكي والضغط الاسرائيلي في انه مش مخليه يقوم بالاجراءات المفروضه يقوم بها.
Je vous remercie pour cette question. Effectivement, cette question elle est très pertinente. On constate qu'il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées. Et d'ailleurs, le bureau du procureur il est submergé par les éléments de preuve, par les plaintes. La seule particularité, c'est que ces acteurs qui ont déposé des plaintes n'ont aucun suivi par la suite. On dépose aujourd'hui une plainte, on pousse le bureau du procureur à enquêter, à aller vers l'avant. Mais le procureur, il est tout à fait souverain. Soit d'enquêter, soit d'aller en avant, soit de privilégier d'autres dossiers. Raison pour laquelle nous avons déposé une demande auprès du procureur pour faire participer les victimes. Oui. C'est la seule issue possible qui nous permet non seulement de contrôler la procédure, mais pour se mettre aussi sur le même pied d'égalité avec le bureau du procureur et l'inciter à prendre des mesures. Certes, des mesures coercitives, mais c'est des mesures urgentes. Et donc, si par extraordinaire, le procureur, au bout d'un délai de 10 jours, ne répond pas à la demande des victimes, à ce moment-là, nous sommes parfaitement fondés à saisir la chambre préliminaire pour l'obliger, pour l'ordonner à prendre ces mesures nécessaires relatives aux éléments de preuve. Et c'est la raison pour laquelle, c'est pour ça que nous avons constaté une certaine lourdeur, une certaine lenteur au niveau du traitement du dossier. Voilà.
Oui, هو الparadoxe est que nous avons vu كذلك القضاء الفرنسي. معناها مثلا كيف نشوفوا الحكم اللي صار فيما يخص لافير دو بنزيما بعد معناها الاتهامات اللي وجهها له دغمنا معناها كنا ننتظروا حاجه اخرى بون بعد ما صارش لكن انا نشوف مثلا الحكم اللي خرج على الكور ناسيونال دو دووا دازيل اللي استعرفت انه بالحق فما معناها انه في غزه الوضع خطير جدا وانها تخلي الطالب اللي يتقدم بطلب اللجوء حكمت له باللجوء معناها فيه اقرار انه الوضع اليوم في غزه فيه كل العناصر نتاع انها في وضعيه خطيره هذا ينجم يكون جوريسبرودونس pour les autres affaires في فرنسا
c'est pas pas question de... Oui, alors la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile, statue sur les demandes d'asile. Alors, effectivement, les ressortissants de Gaza, ils sont parfaitement fondés à demander le titre de l'asile.
Qui fuient
leur pays, qui fuient leur État. Et aujourd'hui, ces gens-là sont menacés et donc répondent parfaitement aux conditions d'octroi du titre de l'asile politique. Oui, je confirme que soit la Cour nationale des droits d'asile, soit les autres États doivent recueillir ces personnes-là au titre de l'asile parce qu'ils sont menacés de leur pays, ils sont déplacés. Et d'ailleurs, raison pour laquelle, nous, parmi les éléments de crime que nous avons constatés aujourd'hui, c'est le fait de déplacer toute une population vers l'extérieur.
اخر سؤال استاذ شفنا انه لو ديبا اللي ولا في فرنسا موجود ديما على الانتي سيميتيزم اللي هو ولا فيه معناها كنوسيون تري بوليميك دونك حتى الناس اللي تمشي تقول لك اي بروبو دونك سي انتي سيميتيزم واللي هو ماشي فيه توجه واحد اللي هو كل ما تنقد حاجه متعلقه باسرائيل فتحكم عليك اليوم قداش نجموا نقولوا انه القضاء الفرنسي قادر انه يكون مستقل في موضوع الانتي سيميتيزم.
Moi, je pense que oui, la justice française, elle est complètement indépendante. La seule particularité, c'est que, d'abord, cette infraction, elle est fourre-tout. Elle est fourre-tout et on ne peut pas jeter tout le monde sur ce périmètre-là. Donc, je crois que les juges et le bureau du le parquet, généralement, ils caractérisent les faits, ils orientent les dossiers selon des faits qui sont bien établis et bien étayés. Donc, on ne peut pas jeter tout le monde sur le fait qu'il y a des actes de ce genre. Mais rappelons aussi qu'il y a beaucoup de... le taux de l'infraction, il est assez élevé, notamment pour les personnes qui sont en situation irrégulière. On le constate même dans les rapports, que ce soit les personnes qui sont poursuivies, que ce soit pour les faits de détention en matière stupéfiante, que ce soit pour les faits de vol. Et ça se comprend puisqu'ils sont dans une situation d'extrême précarité administrative. Et donc, ils sont généralement pris par ce fléau.
داكور اليوم عندك امل انه نجموا نوصلوا نلقاو قرار قضائي بادانه اسرائيل في الجرائم اللي قاعده ترتكب فيها؟
Alors effectivement aujourd'hui nous avons déposé dernièrement ces actes de procédure au bureau du procureur et dans un délai très court si le procureur n'ordonne pas les mesures ne répond pas aux mesures demandées par les victimes, à ce moment-là, on va saisir la chambre préliminaire rapidement.
أستاذ حاتم الشلي مستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو هيئة الدفاع في القضية الفلسطينية عن الهيئة الوطنية للمحامين بتون شكرا لك. شكرا.
Merci.
جيو إكسبرس.
رحبوا بالدكتور عبد الباري عطوان الصحفي والمحلل السياسي القدير، شكرا على قبول الدعوة في برنامج جيو إكسبرس. اليوم أنت حاضر في تونس لتقديم رؤيتك للإعلام في القضية الفلسطينية، ومنذ 7 أكتوبر يعني نتابع كيف يتناول الإعلام العربي والإعلام الغربي القضية الفلسطينية. كيف رأيت الإعلام في ما يحدث منذ 7 أكتوبر إلى اليوم؟
شوف يعني هذه طوفان الأقصى انقلاب تسونامي حقيقة، مش بس في سياسة الشرق الأوسط وإنما في العالم كله. العالم كان نايم وتجاهل هذه القنبلة اللي كانت تكبر تكبر تكبر، وكانت يوم 7 أكتوبر الماضي كانت هي لحظة الانفجار. العالم ما كان مهيئ لهذا الانفجار. كانوا يعتقدوا أن الشعب الفلسطيني استثمر، الشعب الفلسطيني استسلم يعني، وأنه خلاص انتهت القضية الفلسطينية، انتهت كليا. لا، هذا الحدث أعاد الأمور لمرحلة جديدة ومختلفة كليا. يعني العالم الغربي أفاق من صدمة كبيرة، أنه ما كان يعتقد أن إسرائيل هي المسيطرة على العالم كله، وإسرائيل هي تحكم العالم، واللوبيات الصهيونية هي المتحكمة بالقرار في العالم كله. لكن هؤلاء اللي نفذوا هذا العمل وهذا الحدث صدموا الجميع، في صدمة جيدة عند المحرومين المسحوقين، وفي صدمة اللي هي سلبية عند الناس المؤيدين للمشروع الصهيوني. الآن هذه طوفان الأقصى في تقديري بداية النهاية للمشروع الصهيوني في المنطقة العربية وربما العالم بأصله.
يعني حسب تقديراتك الحرب اليوم ستتواصل مدة أخرى طويلة في ظل الحديث اليوم أصبح هناك وهذا ما بثته إذاعة إسرائيل أن الدول العربية طرحت مبادرة لدمج حماس بمنظمة التحرير بعنوان اليوم التالي للحرب في غزة. يعني اليوم هناك تحذيرات للمرحلة الموالية لانتهاء الحرب، لكن متى وبأي طريقة ستنتهي هذه الحرب؟
شوفي، هذه الحرب لا أحد يستطيع أن يتنبأ بنهايتها أو موعد نهايتها. يعني ما حدا تنبأ في بدايتها حتى يستطيع أن يتنبأ بنهايتها. يعني كانت البداية مفاجأة وستكون النهاية أيضا مفاجأة. وكل اللي بيحاولوا يقولوا إنه والله ما بعد حرب غزة، لا، ما في ما بعد حرب غزة، في الآن حرب غزة. هذه حرب غزة قامت من أجل أهداف، إذا لم تحقق أهدافها ستستمر. والآن الحقيقة لما يصمد الشعب الفلسطيني، لما تصمد المقاومة الفلسطينية 4 شهور، وهذه أطول حرب في تاريخ العرب، في تاريخ الأمة، في تاريخ الشرق الأوسط. يعني يصمدوا 4 شهور ونحن على أبواب الخامس، هذا يعني بأنه هذه حرب مختلفة وجاءت من أجل تحقيق أهداف. أبرز أهدافها أنه حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حق تقرير كامل. الآن الشعب الفلسطيني صدم من كل الكلام المعسول عن والله دولة فلسطينية مستقلة وعن حل الدولتين، هذا كله كذب. الشعب الفلسطيني جرب حل الدولتين، أنه يمشي في حل الدولتين، جرب عمل انتفاضات قبل ذلك. يعني انتفاضة عام 2000، انتفاضة عام الأولى اللي كانت في 87، لكن جرت إجهاضها. ضحكوا على الفلسطينيين، نعملكم دولة، نبني البنى التحتية للدولة، وبعدين إيش تيجي الدولة وانتم بصير عندكم اعتراف الأمم المتحدة. وبعد ما يهدأ الحادث ويعني تنتهي المقاومة، بعدين السلام عليكم.
لكن اليوم دكتور عبد الباري عطوان، يعني بعد كما قلت 140 يوم من هذه الحرب، مجاعة كبيرة، عدد كبير من الشهداء، وما زال هناك إصرار من إسرائيل على القضاء على ما تبقى 1,500 فلسطيني مجتمعين في رفح. يعني فما تهديد بقصفهم وإنهائهم بتعلة أنها تذهب إلى آخر من هو ينتمي لحماس. اليوم كأنه هناك يعني دول العربية لم تكن حاضرة بقوة في حماية القضية الفلسطينية، وخاصة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفلسطينيين. اليوم المشكل مثلا فيما يتعلق بالحدود مع مصر، كيف ترى ما قامت به مصر في الإصرار على أنه من يتحمل مسؤولية غلق المعابر هي إسرائيل وليس مصر، والحديث عن محور فيلادلفيا؟
يا سيدتي، الفلسطينيون لما قاموا بهذا العمل، بهذا التحرير، يعني ما حصل كان عملية تحرير، بروفا لعملية تحرير، أنه مجموعة تخترق الحدود من 80 موقع، في سلك وفي سمنت وفي حدود إلكترونية، ورغم ذلك استطاعوا أنهم يخترقوها ويصلوا إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة. هذا يعني في عقول، وهذه عقول غير مسبوقة. هذا نقطة. النقطة الثانية أنه هؤلاء الناس لم يراهنوا على العرب على الإطلاق. يعني أجمل ما في القيادة الحمساوية في قطاع غزة إنها لا تعرف العرب.
لكن من يفاوض اليوم هم العرب، من يفاوض باسم الفلسطينيين مثلا قطر هي الجهاز الذي يعني هي الجهة التي تفاوض من أجل، سواء فيما يتعلق بصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، وفيما يتعلق بإيقاف وقف النار وغيره. يعني هي هذه الورقة التي بيد الدول العربية اليوم كيف تم استعمالها؟ مثلا شفنا السعودية اشترطت أنه يمكن بداية التفكير في التطبيع إذا ما تم الاعتراف بحل الدولتين.
يا سيدتي، هذه طوفان الأقصى قضت على مؤامرة كبيرة جدا اسمها التطبيع العربي. يعني كان في يعني وادي متدفق لنحو التطبيع العربي الإسرائيلي وينهوا القضية الفلسطينية. الخطة كانت إنهاء القضية الفلسطينية، إنه الفلسطينيين دجنوا، الفلسطينيين استسلموا، الفلسطينيين ما عاد عندهم القوة، والعرب على استعداد إنهم ينهوا هذه القضية مع إسرائيل. وكل واحد يفكر في نفسه. أجت هذا الطوفان الأقصى قضت على التطبيع. الآن الوضع، الدول المطبعة اللي كانت تحكي عن السلام الآن في وضع سيء جدا، لأنه الآن هذه الطوفان الأقصى أعاد الشعب العربي إلى الواجهة، وأنه يعني مزق أو هز النظام الرسمي العربي. طيب، الدول العربية هذه الدول العربية الوسطى أنا لا أثق فيهم، لأن هذا الوسيط غير مستقل، هذا الوسيط هو أداة غربية، أداة أمريكية، مش أداة يعني مش وسيط محايد على الإطلاق. يعني أفضل شيء إنه هو ناقل بريد، يعني ساعي بريد، يعني يلقي الرسائل فقط، لكن هو في القلب يعني يؤتمر بأوامر اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يعني لما بيجتمعوا في باريس بتجتمع مين؟ المخابرات المصرية مع المخابرات الأمريكية مع المخابرات القطرية، يعني بمعنى إنه يعني هذا يعني وساطة أمريكية بالدرجة الأولى.
لكن حماس أمريكية. قبلت بذلك لأنه لكن حماس قبلت بهذه الوساطات.
حماس في عندك حماس الداخل وحماس الخارج. حماس الخارج تعيش بالعصر القديم إنه لا إحنا مع العرب ونسمع العرب ووسطاء العرب. حماس الداخل وأنا أعرف يعني أعرفها جيدا، حماس الداخل بقيادة السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى يعني هذه والجنرالات على الأرض، هؤلاء عندهم آراء عندهم قرار. أنت الآن مثلا سكروا التليفون لا يحكوا مع الحماس الخارج على الإطلاق. ليش ما بيحكوا؟ لأنه أدركوا أنه هذه الوساطات مؤامرة حتى يخدروهم ويمتصوا زخم الطوفان الأقصى. فالآن ما في وساطات. الآن رجعوا لباريس مرة ثانية لأنه أدركوا بأنه لا، هذه قيادة مختلفة، هذا بدكم تعملوا. حتى بيقولوا الدولة الفلسطينية القيادة في غزة لا تقبل بهذا الكلام، لا، بدها خطوات عملية. إيش بدها؟ بدها انسحاب إسرائيلي كامل، بدها كمان اللي هو وقف كامل لإطلاق النار، بدها إعادة إعمار، بدها دولة فلسطينية. يعني هذا كله شروط ولم يتزحزحوا عنها لحظة واحدة. ما بدهم هدن قصيرة، لأنهم عارفين إسرائيل بدها تفرج عن الأسرة، وبعد ما تفرج عن الأسرة ترجع تحتل قطاع غزة. لكن هم الإسرائيل كانوا في قطاع غزة، يعني هزموا عام 2005 وكان شارون اللي هو المتطرف وانسحب، وفي ليلة صحينا الصبح ما لقينا في إسرائيليين في قطاع غزة، لأنه كانت غزة مقبرة ليهم، والآن غزة مقبرة ليهم. فالوسطاء مجرد ساعات بريد وغير بريئين. يعني
هل يختلف الأمر بالنسبة لما يقوم به الحوثيين في البحر الأحمر فيما يتعلق خاصة الفترة الأخيرة، وإلى أي مدى يمكن هناك خطر أن يتوسع هذا النزاع ليشمل المنطقة بأكمله؟
يا سيدتي، لما بدأت طوفان الأقصى ما كان في أي تضامن عربي عسكري أو غير عسكري مع الشعب الفلسطيني إطلاقا. يعني كانوا اعتقدوا الكل حتى العرب كانوا يراهنوا أنه بعد أسبوعين سيسقط قطاع غزة وسيتم العثور على السنوار وجماعته يقتلوهم وينفجروا الأنفاق. وين قصص إغراق الأنفاق بالبحر مياه المحر؟ وينها؟ وين قصة أنه قتل الناس باستخدام أغازات سامة وقتلها؟ وينها؟ كانوا بيحلموا مش عارفين شيء، كانوا جاهلين كليا. طيب الآن أمريكا أكبر كانت خطر أمريكا تحذر منه، الخطر الأكبر هو توسيع الحرب.
نعم.
إنه ما بدهم الحرب تتوسع. ليش ما بدهم الحرب تتوسع؟ لأنه أمريكا لا تستطيع الحرب على أكثر من جبهة، عندها أوكرانيا كمان الشرق الأوسط مشكلة، إسرائيل أيضا لا تتحمل الحرب طويلة. فتغيرت الصورة الآن. إيش اللي يصير الآن؟ أمريكا قواعد الأمريكية تضرب في العراق.
نعم.
والآن هذه القواعد ستهرب من العراق وتضرب في سوريا أيضا. هذه نقطة. نقطة ثانية، المفاجأة العالم كله مين؟ اللي هم الحوثيين. مفاجأتهم اليمن. يعني أنا أقول لك حتى بسط لك الصورة وللأخوات والأخوة المشاهدين، وريني من الحرب العالمية الثانية حتى الآن، وريني في دولة بما في ذلك روسيا بما في ذلك الصين أطلقت رصاصة واحدة على سفينة أمريكية
باستثناء الحوثيين.
باستثناء هذول الآن اللي الآن يعني قصفوا إيلات
حوثيين، يعني بمعنى إيران.
طبعا لا، مش إيران، هذول الحوثيين يمنيين، هذول الحوثيين عرب بتساعدهم إيران. ليش لا؟ طبعا إسرائيل بتساعدها أمريكا وبتساعدها بريطانيا وبتساعدها أوروبا وبتساعدها يعني. ففي بس هم في إرادة عندهم إرادة قوية جدا. طيب ما هو كمان يعني سوريا بتساعدها إيران، يعني سوريا ما تصدت أو ردت على الهجمات الإسرائيلية. لكن هذولا عندهم إرادة. الشعب اليمني شعب عريق، عنده حضارة 8000 سنة، عنده حضارة سبأ، هذا عندهم لا يخافوا. الإنسان اليمني شجاع جدا ما بيخاف الموت. فالآن توسعت الحرب، الآن البحر الأحمر ممنوع على السفن الإسرائيلية، وممنوع أيضا الآن على الصحف الأمريكية وعلى على السفن الأمريكية وعلى السفن البريطانية. كل يوم في هجوم، وبعدين كمان إنه في صواريخ 2000 كيلومتر توصل إلى إيلات. إيلات أصبحت مدينة أشباح، وهي من المدن المزدهرة في إسرائيل.
نعم.
فتغيرت الصورة، تتغير الآن، توسعت الحرب الآن يعني، وحتى هذه اللحظة حتى اليوم يعني ما اكتشفوا الأنفاق الفلسطينية.
نعم.
ما اكتشفوا مصنع صواريخ. ما اكتشفوا مصنع ذخائر. هذا إعجاز ما حصل في تاريخ الأمة كلها. فمن هنا أنا متفائل
إن شاء الله. شكرا لك دكتور عبد الباري عطوين على قبول الدعوة وعلى هذا الحوار. شكرا لك،
فرصة طيبة. شكرا.
جيو إكسبرس.
كنا في تغطية مباشرة للندوة العلمية حول القضية الفلسطينية والقانون الدولي اللي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في الحمامات، واللي كما قلت بدأت البارح وتتواصل اليوم وتوفى غدوة. حاولنا نحصلوا من خلالها على أبرز الشهادات والمواقف من خلال أهل الاختصاص. نشكركم على متابعتنا. نحن هكا وصلنا نهاية اللقاء، نتلقاه إن شاء الله الجمعة الجاية. أجمل تحيات الفريق اللي تابعكم اليوم: أماني بن ناصر، أدم المدب، ياسين الحافي، وعوات في المزوغي. نتلقاه الجمعة الجاية في أمان.
Géo Express.